Parfait. C'est le Super Daily. Super Daily. C'est le Super Daily. Toute l'actu social média servie sur un podcast.
Salut tout le monde, je suis Thibaut Tourvieille de La Broue et vous écoutez le Super Daily. Le Super Daily, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux. Ce matin, on parle social, télé et pour m'accompagner, je suis avec monsieur Camille Poignan. Salut Camille.
Salut Thibaut, salut tout le monde. Nous sommes en 2021 et l'homo habilis ne se contente plus de se vautrer dans son canapé ou son fauteuil en rotin pour regarder la téloche. Désormais, les deux hémisphères de son cerveau ne font plus la même chose. À gauche, on regarde une série pendant qu'à droite, on tweet, on stalk, on s'instruit, tout ça à la fois. N'est-ce pas flippant?
Ouais, c'est ça, tu me disais, j'ai une intro à la Black Mirror.
Non, tu verras.
Ah, d'accord.
Mais oui, aussi.
Oui, bah, c'est vrai que notre manière de consommer la télé, elle s'est nettement transformée en quelques années avec, effectivement, comme tu le dis, la place de ce deuxième écran tout petit, format 9/16, qui est au fond de notre poche ou à côté de nous quand on regarde la télé. Et il commence à jouer un rôle de plus en plus central dans notre manière bien d'envisager les programmes télé, de les consommer, de les partager entre amis. Et ce matin, on va discuter justement de tout ça.
Tiens, j'ai un chiffre.
Oui.
Un chiffre entre, on parle télé, on parle mobile. En 2020, les Français passaient 3h58 par jour sur leur télé. Alors, j'ai pas les chiffres des années d'avant. J'avais l'impression que c'était beaucoup plus grand il y a 10 ans, 15 ans. Bref, en 2020, 3h58 contre 3h30, 4h pour les jeunes sur leur mobile. Donc, on arrive quand même à une équivalence et même à des moments de temps partagé.
Ouais, bah, pendant des décennies, hein, la télévision, c'était la reine incontestable des médias, mais il semblerait que son règne mondial ait pris fin. Et moi, je suis tombé sur un chiffre qui datait de 2019, donc on va dire RIP la télé en 2019. En tout cas, en 2019, la consommation d'Internet a dépassé la consommation de télévision. Moi, j'ai un chiffre qui date donc de 2019, 170 minutes par jour en moyenne, soit 2h50 quand même pour Internet, contre 167 pour la télé. Voilà, donc effectivement. Mais ce qui va être intéressant, et c'est peut-être ce dont on va parler aujourd'hui, c'est qu'il peut y avoir une consommation parallèle, simultanée, de télévision et d'Internet, les deux étant plus intermêlés que jamais. Ce qui est sûr, c'est que la socialisation autour des contenus télévisuels, ce n'est pas nouveau. La télévision, bah, c'est presque le premier média social, on va dire. Hein. En tout cas, c'est un des premiers médias sociaux.
La logité.
Voilà, et par essence, c'est un moment qu'on échange, qu'on partage.
En famille, voilà, avec des amis.
On regarde une émission en famille, on partage ses impressions à table ou le lendemain. Sur le film de la veille, hein, ça se faisait quelque chose qui se faisait beaucoup dans la cour de récré. On parle à l'époque, moi c'était comme je le disais hier, on parlait de la dernière émission des Inconnus. C'était des moments comme ça qui étaient des moments de qui rassemblaient. On enregistrait
c'était
même
un sujet social. Voilà.
À mon époque, en tout cas, on enregistrait même un programme télé pour le regarder ensuite avec des amis. C'était un moment social et globalement, encore aujourd'hui, la télévision c'est un média qui invite à en partager les moments phares et à aller vivre en groupe quand même. Hein.
Ouais, c'est vrai. Ouais, alors il y a ceux pour qui c'est tout le temps allumé chez eux. Du coup, le groupe profite de ça. Mais il y a les moments où c'est un rendez-vous. On sait qu'il va y avoir un film, ou même parce que tu sais quand tu donnais ton chiffre tout à l'heure, ces chiffres-là maintenant ils sont un peu biaisés puisque t'as Netflix qui est connecté à ta télé, mais à la fois tu peux regarder ça sur un ordi, voire un grand ordi, et ça revient à de la télé finalement. Et tu peux te mettre en commun sur une série, ce qui n'est pas de la télé 100%, mais en tout cas c'est des moments en commun.
Et donc évidemment aujourd'hui, bah c'est plus dans la cour de récré, c'est plus à la machine à café, en tout cas plus seulement qu'on discute de télévision, qu'on discute de programmes télé, c'est en direct, bien souvent, sur les réseaux sociaux. Et c'est le lieu de là où on commente, là où on réagit sur ces programmes télé. La place, avec au milieu la place du deuxième écran qui s'est clairement officialisé. Hein.
Ouais, et je me faisais une remarque, hein, parce que le Covid, encore une fois, ce petit coquin a changé beaucoup de choses là-dedans. Avant le Covid, on avait une routine peut-être plus classique de télé, genre du boulot au télé, toujours le téléphone bien sûr, mais l'entertainment a pris une grosse place très importante dans notre vie. La télé classique, c'est devenu un peu barbant, parce que bah quand t'es toute la journée, pendant 4 mois chez toi, allumer la télé, c'est devenu trop basique. Bah, t'as eu besoin aussi, c'est pour ça que TikTok aussi a pris une énorme place, ben de plus d'entertainment, et là, t'as commencé vraiment écran, à te scinder avec ce deuxième écran encore plus qu'avant. Ouais, et le mobile, c'est vraiment imposé.
Ouais, phénomène frappant d'accentuation, ouais. Effectivement, autour de ça.
C'était là, mais là, c'est devenu flagrant.
Des activités digitales autour de la télé pendant la diffusion des programmes. Ça, c'est quelque chose, on l'a vécu clairement pendant le confinement. C'était là avant. Mmh. Le tendanciel était fort, mais ça s'est accentué, effectivement.
Et ça a accéléré aussi le Covid. Alors, autre sujet intéressant, il a accéléré l'évolution de la télé classique vers le streaming télé. Tu vois, on parlait ça de Netflix tout à l'heure. C'est ça, ouais. C'est le Covid qui a permis aussi de complètement basculer à ce moment-là.
Je suis tombé sur une étude OpinionWay, dont je vous mets le lien en note de cet épisode, qui nous explique que 73% des Français regardent la télé en même temps qu'ils consultent un second écran. 73%, hein, donc ont le mobile à portée de main et dans leur consommation de programmes regardent. Et 85% chez les jeunes de 18 à 24 ans.
T'as un mec qui te fournit des études. Tu fabriques, t'as un cabinet d'études chez toi. Je cherche tout le temps des chiffres comme ça.
Ah bah oui, bah faut creuser,
et ça sort
faut creuser.
Du chapeau,
je vous mets le lien direct vers cette étude OpinionWay. Voilà, c'est quand même ouf. Hein, ça veut dire quand même 85% des jeunes de 18 à 24 ans regardent la télé et en même temps sont acteurs aussi de leur consommation, partagent des moments phares, échangent en direct sur Twitter, rebondissent sur un truc qui se passe en ce moment, utilisent vraiment ces émissions comme un alibi de socialisation et vont socialiser sur des plateformes sociales.
Alors, ce qu'on remarque, hein, d'ailleurs, moi le premier, quand on fait ça, c'est pas forcément parce qu'on s'ennuie. Parfois, je dis à ma copine, mais tu te fais chier ou quoi? Qu'est-ce que t'as avec ton téléphone? C'est parce que on peut pas s'empêcher de vouloir en savoir plus, parfois, de vouloir partager beaucoup plus vite. On peut plus attendre la fin de la séance de cinéma pour partager. On en avait parlé lors de l'épisode autour de Squid Game. Je me suis aussi fait la remarque en parallèle sur The Crown, la série autour de la reine d'Angleterre. Pendant ces deux séries, j'ai eu besoin de fact-checker, de savoir si ce qui se passait était vrai. Souvent, je savais que c'était vrai, mais putain, c'est ouf qu'ils parlent de ça. Est-ce que ça s'est vraiment passé comme ça en Angleterre? Et j'avais besoin tout de suite de savoir. Déjà, moi, mon cerveau est une passoire, donc j'avais peur d'oublier ça. Donc, on est aussi sur ce FOMO, la peur de louper quelque chose ou de la peur d'oublier quelque chose. Et même quand je regarde des documentaires hyper sérieux sur la Seconde Guerre mondiale, j'ai besoin de mettre pause pour en savoir plus sur ce moment-là, ouais. Pour savoir plus sur la personnalité de tel mec.
Et ça, c'est très intéressant, ce mode de consommation, le fact-checking d'émissions. Alors là, tu parles de documentaires, mais ça marche aussi sur des œuvres fictionnelles. Et notamment, carrément. On l'avait souligné sur Squid Game, comment le moteur de recherche Google s'est retrouvé complètement envahi de requêtes autour du cours du won, cette monnaie sud-coréenne, de gens qui voulaient effectivement comprendre, rapporter à leur consommation télé usuellement traditionnellement passive, rapporter de la valeur ajoutée en allant scruter le web, scruter les réseaux sociaux. C'est assez fou. Et du coup, aujourd'hui, il y a un terme, alors le terme il n'est pas tout nouveau, il y a un terme qui s'appelle la social télé. Hein. C'est un terme que je vois là, que j'ai vu apparaître dès 2014-2015, social télé. Faire de la télévision, aujourd'hui, c'est devenu faire de la social télé. Autrement dit, oui, je propose un programme, mais aussi je vais créer des moyens d'interagir avec les téléspectateurs, avec les audiences, les internautes, mes audiences télé, pour plein de raisons. Bah, la première, c'est pour les fidéliser, on va en reparler, créer des communautés autour de mes programmes, et puis aussi comprendre leurs besoins. Bah, comme tout bon community manager, social media manager, je veux aussi écouter les réactions de mes pour pouvoir potentiellement faire évoluer mes programmes. Et du coup, bah concrètement, derrière chaque programme télé aujourd'hui se cache quasiment un community manager.
Est-ce que du coup, est-ce que ça, si je comprends bien, est-ce que ça rentre dans ce cadre, l'épisode qu'on avait fait l'an dernier sur la flamme, la série
totalement,
télé,
totalement, c'est exactement
ça, qui a pensé
ça.
Le déploiement de sa série avant même, peut-être même le script sur tous les réseaux, sur comment atteindre telle communauté à tel endroit. Donc ça, c'est le cas.
Bah exactement, derrière la flamme, c'est exactement ça, c'est le cas d'école. C'est pour ça qu'on en avait parlé. Derrière la flamme se cachait une équipe de community manager, et c'est le cas à peu près derrière tout programme. Quand tu regardes une émission, bah tu souhaites interagir, hein. C'est ce qu'on a tous bien vu, et ce que les programmateurs, les créateurs de contenu télévisuel ont bien compris aussi. Tu souhaites interagir avec le programme et puis aussi avec d'autres personnes, et pour ça, bah t'as ton deuxième écran à portée de main, et du coup, en 2001, quasiment chaque émission du PAF a une équipe de community manager derrière. Avec quelle mission? Bah teaser en amont à la diffusion. Ouais, c'est ce qu'avait très bien fait le programme La Flamme de Canal+ à l'époque, un gros travail de teasing avant, mais c'est ce qu'on retrouve aussi sur toutes, sur les Koh-Lanta, sur les Top Chef. Il y a une grosse session de teasing très bien orchestrée sur les réseaux sociaux. Et deuxième mission de ces équipes social media, c'est animer les conversations pendant la diffusion. C'est-à-dire que tu as quand même des équipes dédiées qui sont là à 21h30 pour répondre et interagir en direct, parce qu'ils ont compris maintenant, les chaînes télé, que il y avait une partie de l'expérience télévisuelle qui se passait sur les réseaux sociaux. Et puis, la troisième mission de ces équipes social media, c'est entretenir le lien pour fidéliser les audiences.
Ouais, faire vivre l'émission jusqu'à la prochaine saison ou pendant la durée, quoi.
Notamment quand on est sur des contenus sériels, hein, que ça soit de la télé-réalité ou de la fiction, eh bien, t'as tout intérêt à faire en sorte qu'effectivement, il y ait un lien qui se tisse entre ta marque média et tes audiences.
Je suis en train d'imaginer le CM de L'Amour est dans le Pré. Bisous, bisous, bisous. Non. En direct.
Non, mais c'est vachement intéressant parce que le CM de L'Amour est dans le Pré. En tout cas, ceux qui font vivre cette marque, ils ont travaillé une tonalité de marque de programme clairement qui ressemble à celle de
l'émission,
de l'émission,
sûr.
Mais qui est tout à fait cohérente. Et puis ils entretiennent tout ça. Ils mettent aussi à disposition des contenus pour que les audiences élargir leurs audiences. Hein. Ce sont les fameux mèmes, les fameuses petites séquences de 5 secondes de vidéo, les captures vidéo, etc.
Et puis dans un monde là où typiquement la série ou même même l'entertainment télé est ultra concurrentiel, je pense que même faire du teasing une demi-heure avant, un quart d'heure avant, pendant le JT, pendant autre chose, je pense que c'est hyper important aussi de pas louper ce rendez-vous, en tout cas que les fans soient là devant la télé.
Ouais, mais ça doit être un boulot passionnant aujourd'hui d'être au cœur d'une équipe social media liée à une émission télé, hein, parce que t'as une vraie synergie entre la télé et les réseaux sociaux qui est savamment maintenant entretenu par les chaînes télé et les producteurs. Hein. Par exemple, chaque vendredi soir, je sais ici que c'est le cas, je me tourne vers la régie parce que je sais qu'il y a de ça ici. Chaque vendredi soir, pour les fans de Koh-Lanta, l'émission, elle se déroule sur deux écrans. La télé, ouais, évidemment, et sur le mobile. Et donc, il y a beaucoup à jouer là-dessus. Et du coup, sur Twitter, qu'est-ce qu'on trouve? Énorme quantité de mèmes, quantité de Denis Brognard qui fait des grimaces, de phrases cultes, etc., etc. Et ça aussi, c'est la vie d'un programme télé aujourd'hui, d'une émission. Et il y a une vraie synergie entre la télé et les réseaux sociaux. Et c'est encore plus vrai en matière de télé-réalité.
Hein. Ah ouais, carrément. Mais est-ce que c'est pas un aveu de changement, de disparition d'une télé classique où on essaye de grappiller les audiences tout en étant persuadé qu'on veut rester sur la télé, comme le changement qu'on a pu voir dans la com, dans le marketing?
Ce qui est intéressant, c'est que les programmes télé ont compris la logique de rendez-vous, hein, et se sont dit, non mais en fait, il y a évidemment, il faut garder un lien durable avec mes audiences, mais au milieu, ma relation, elle est jalonnée par des moments phares, des moments où on se retrouve collectivement, des moments où on tisse du lien ensemble, une sorte de climax hebdomadaire, c'est l'épisode de Koh-Lanta. Et puis il y a maintenant aussi une nouvelle forme de narration. Ça, c'est très intéressant, puisqu'on parle de télé-réalité. Il y a eu une sorte d'upgrade des premières émissions de télé-réalité. Si tu te souviens, je sais pas quel âge tu avais.
Bien sûr, moi j'ai connu Le Loft.
Et ben voilà, la promesse de ces premières télé-réalités, c'était de vous montrer tout ce qui était caché. C'était vraiment ça la promesse. Du coup, ils foutaient 50 caméras dans un appartement, y compris dans les douches. Hein. T'en avais vraiment
dans les piscines,
de partout, 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 partout. Et aujourd'hui, la narration, elle commence sur l'écran de télé et elle se continue sur les réseaux sociaux. Et la promesse de la télé-réalité, qui est de dire on va tout vous dire, elle est encore plus maintenant sur les réseaux sociaux, où aussi les acteurs, les protagonistes ont leur rôle à jouer, hein. Et c'est comme ça que on a des participants de télé-réalité qui sont aujourd'hui des phénomènes internet, hein. Je trouve typiquement que des émissions, alors moi j'ai jamais regardé en télé, par contre obligatoirement j'y ai été confronté en social media, les Marseillais, etc., ouais, les Anges, ouais. Tout ça aujourd'hui, c'est un programme qui est imaginé pour être vraiment sur ces deux écrans, et il y a un morceau de la narration qui se passe sur les réseaux sociaux.
Oui, et puis si tu veux aller plus loin, aujourd'hui, toutes les personnes qui sortent d'émissions de télé-réalité deviennent des influenceurs, que ça soit sur du très long terme ou du très court terme. Tout le monde leur saute dessus pour vendre des slips de bain quand tu sors de Koh-Lanta, vendre des conneries, des soutifs quand tu sors de Love Story, et après ça dure peut-être pas. Mais en tout cas, tout de suite, t'as une transition. Donc toi, quand t'es en train de regarder, t'as déjà des actions qui se passent sur leur mobile, sur leur comptes réseaux sociaux.
Ouais, bien sûr. Et du coup, les programmes aujourd'hui télé, ils cherchent à viraliser leur programme et ils se dotent d'outils social media pour renforcer ces engagements. En fait, on voit bien, on a la perception. Alors moi, je suis pas un expert de la télé, mais je suis à peu près certain qu'aujourd'hui, il y a le KPI initial, c'était celui des audiences. Hein, combien je fais d'audience tous les mois. Donc, on va dire la portée. Combien de personnes je touche avec mon contenu télévisuel. Et je suis à peu près sûr que maintenant, il y a un KPI qui est suivi de très près, c'est celui de l'engagement de mes audiences.
Ouais, ouais, ouais.
Et qu'est-ce qui se passe? Et du coup, je suis sûr qu'aujourd'hui, à l'aune des stats social media, on fait évoluer des programmes et puis voire même, on le dote d'outils qui permettent leur viralisation. On a tu parlais de la flamme, effectivement, énorme pack de création de contenu.
Ils sont arrivés avec tout.
Si vous allez sur Giphy aujourd'hui, à peu près tous les TV shows, toutes les séries un peu ambitieuses qui aujourd'hui arrivent sur le PAF, se dotent aussi de GIF animés, de packs d'outils, etc., de filtres Instagram. Bref, on dote d'outils un programme télévisuel pour faire en sorte qu'il viralise.
Parce que c'est pas secret, on est humain et on aime bien montrer qu'on passe un bon moment, que c'est pas que ce soit au volant de notre bagnole, à la plage ou devant une série ou un film. Et là, on peut pas s'empêcher, si on a attendu la 4e saison de Handmaid's Tale, de partager le premier écran, de mettre elle est de retour, même si on trouve ça kitsch quand les autres le font, on a envie de, je le fais en premier, j'ai envie. Et là, tu te dis, ah, il y a peut-être un gif, un petit truc pour compléter ma petite story. Et bam, là, si le gif est prévu, c'est carton. Et eux peuvent tracer derrière.
Ils peuvent tracer. Et puis, bien sûr, ils peuvent mesurer l'impact du social media, du lien qu'ils tissent, de la viralisation qu'ils ont réussi à susciter sur leurs audiences in fine. C'est ça. C'est la social télé. Maintenant, on vit avec. Hein. Est-ce que tu as d'autres trucs à nous raconter
juste,
sur tout
ça? On peut juste... Il y a une étude Twitter qu'on a vue qui est trop cool autour de Twitter. On peut juste en dire deux mots et on va mettre le lien. Il y a une super étude donc qui a été faite autour de Twitter. D'ailleurs, j'ai adoré le nom. Watch it, tweet it, meme it. Qui va reprendre tout ce qui se passe autour des séries TV et notamment beaucoup d'analyses de hashtags, de mots et de tendances sur plusieurs années qui expliquent par exemple que le rapport de conversation issu de Twitter montre... autour des séries télé qu'entre janvier et août 2021, le volume de conversation autour des 10 top séries de l'époque, hein, Netflix par exemple, était deux fois supérieur à la même période en 2020. Ça veut dire que sur la même période, on a beaucoup plus parlé des séries les plus tendances du moment sur Twitter, que le volume de réponses à ces tweets avait augmenté de 40%. Et toute l'étude donc nous montre tout l'univers des fandoms, qu'est-ce qui intéresse plus, classé en catégorie. Par exemple, les théories sur la saison suivante ont eu 140% de plus d'interactions. Les tentatives de spoil, les mêmes, tout ce qui se passe autour de ça, il y a une énorme communauté de fandoms qui sont prêts à jouer sur les séries, à créer des mèmes en direct. Et cette étude, elle est trop bien. En plus, c'est hyper dynamique. Le site, il est trop cool. Donc, ça vaut le coup d'aller voir.
Carrément, très belle étude. On vous conseille d'aller y jeter un coup d'œil. On la met en note de cet épisode.
Bon, et moi, maintenant, je vais te parler de ma théorie Black Mirror, de ce qui pourrait se passer dans un futur proche. Ce week-end, avec un copain à l'apéritif, on s'est interrogé sur la puissance commerciale de ce second écran et on s'est projeté dans quelques années et déjà ce qui se passe, ce qu'on voit un peu arriver. J'imagine une application Netflix qui pourrait servir à proposer des contenus alternatifs, par exemple des micro-vidéos explicatives sur un passage de la Seconde Guerre mondiale, sur la personnalité d'une personne, que ce soit l'acteur ou le rôle.
Du Netflix shopping aussi.
Voilà, deuxième point. Dans un monde très proche, une application de ce genre pourrait vous permettre d'acheter en direct les fringues ou les accessoires des acteurs. On a vu dans Squid Game 7800% d'augmentation des
ventes Vans
de la Vans. Si tu vas aujourd'hui sur Amazon Prime, si tu mets pause sur ta série, tu te balades et là on peut te dire le nom de chaque personne qui est dans la scène. Je sais pas si t'as déjà vu ça.
Oui, mais pas des produits.
Pas des produits.
Demain,
mais en tout cas, il y a déjà une recherche, un séquençage pour te donner un certain nombre d'infos. Demain, si t'as la combi, les fringues, les chaussures, le petit truc, le masque, tout, tu peux trouver ça. Sur Netflix, on a vu Bandersnatch, l'épisode de White Mirror, où tu pouvais interagir en direct. Demain, le mobile connecté à Netflix pourra te permettre de faire le switch. Tu seras plus avec ta souris comme un con. Tu vois, tu pourras jouer direct avec. Et comme pour les suggestions de filtre Insta, on en parlait, le pack de GIF qui est proposé par une série.
Là, tu pourras faire des screen capture de 5 secondes automatisées.
Screen capture. Les réseaux pourraient te proposer des contenus relatifs ou des contenus inédit à poster immédiatement avec des petits rappels. Attention, c'est dans 3 minutes. Faites votre truc, vous êtes devant, prenez votre filtre et tout. Donc tout ça pourrait se regrouper, tu vois.
À mon avis, tout ça, c'est pour 2022.
Ben, y a moyen.
Ah ouais, je pense que
franchement,
c'est là.
Franchement, il y a moyen, c'est pas loin, mais tu peux imaginer. Le shopping, ça fait quand même très peur. Hein. Je veux dire, ce que t'as aujourd'hui sur la story ou le live d'une influenceuse avec un pop qui te dit tiens, achète ce sac à main. Demain, s'il est dans une série, t'as vu deux épisodes, on te le repropose. Ça peut être vénère, je pense.
Les amis, on serait très heureux d'échanger avec vous de tout ça sur les réseaux sociaux, @supernatif. Quelle sera la télé demain? Dites-nous tout.
Faites ça sur Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, Pinterest, à peu près partout, venez en parler avec nous et peut-être demain même sur Netflix.
Exactement. Et puis à vous écouter cet épisode de podcast dans votre application de podcast préférée. Merci à vous, c'est très cool. N'hésitez pas à partager cet épisode avec une pote, avec un pote. Et puis si vous nous écoutez sur Apple Podcast, on a un service à vous demander, les potos. Mettez-nous 5 étoiles avec un petit commentaire sympa, ça nous fera très plaisir.
Merci d'avance, très bonne journée et à demain.
Et rendez-vous demain. Salut tout le monde, ciao.